Cours d'éthique religieuse par le père Philippe à Saint-Jean-d'Art, le 2 décembre 1991.
Des questions. Vous dites qu'il n'est pas juste, pas exact, de soutenir qu'il n'y a pas d'éthique humaine sans l'éthique religieuse. Oui, je le maintiens. Parce qu'autrement, on aurait la position luthérienne de dire que s'il n'y a pas l'attitude de Dieu, on ne peut pas saisir la nature humaine. Peut-on saisir la nature humaine par des opérations qui sont typiquement humaines? Ou est-ce que toutes nos opérations sont nécessairement dépendantes d'une attitude religieuse? Autrement dit, le volontaire, dans son analyse d'acte volontaire, est-il nécessairement religieux? Mais il y a quelques petites questions comme ça qui feraient partie d'une attitude critique. Le volontaire peut-il exister sans être libre? Le volontaire peut-il exister sans être religieux? Répondez à ces questions. 10 minutes de réflexion. Bien, le volontaire peut exister sans être libre. Là, on démolit tout Descartes. Pour Descartes, le volontaire est nécessairement libre. Bien, le volontaire existe avant la liberté, fondamentalement. Puisque vous pouvez aimer volontairement quelqu'un qui s'impose à vous. Ensuite, vous l'aimerez librement. Est-ce que la liberté naît de l'amour ou est-ce que l'amour naît de la liberté? Ça, c'est très important. Chez les Français, l'amour naît, les Français cartésiens, disons, ceux qui sont nés Français à partir de Descartes. Beaucoup de Français sont nés Français à partir de Descartes. Alors, pour cela, l'amour naît à partir de la liberté. C'est pour ça que vous êtes libre avant d'aimer. Alors, au fond, c'est un amour artistique. Parce que Descartes confond la liberté artistique et la liberté morale. Puis alors, la volonté, le volontaire peut exister. Le volontaire peut exister dans un amour à l'égard d'un autre, d'un ami. Prétendre que l'amour d'amitié ne peut exister que dans l'attitude religieuse, c'est aller contre l'expérience constante. On a tous vu des personnes qui se disaient non religieuses. N'ayant pas l'expérience de ce que représente la vie religieuse et pourtant étant juste, un sens de la justice, un sens de l'honnêteté, un sens de l'amour d'amitié et de fidélité. Ça existe. Il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Et dans la réflexion philosophique, on dit mais oui, l'amour d'amitié peut exister sans s'achever dans l'attitude religieuse. Et c'est une question de spécification et une question de perfection. La volonté peut exister, peut être spécifiée sans l'aspect religieux, mais ne peut pas être parfaite. Ne peut pas aller jusqu'au bout de sa perfection. Question d'état et de nature. Toujours la même distinction. L'état de perfection morale exige l'attitude de la morale religieuse. Mais le caractère moral de l'acte humain est antérieur à l'attitude religieuse. Pourtant, alors voilà, alors ça c'est l'objection. On l'a détruite à sa racine avant d'écouter. Pourtant, il semble que quand on perd le sens de Dieu, on perd le sens
constatez autour de vous.
C'est autre chose. On peut avoir les deux et comprendre que les deux sont différents. Qu'il y ait un lien fondamental dans l'homme, on est tout à fait d'accord, c'est sûr. Vous voyez, je dis bien l'attitude humaine qui n'est pas opposée à l'attitude religieuse. C'est très différent. Si vous perdez le sens de Dieu sans être en opposition vis-à-vis du sens de Dieu, celui qui est en état d'inimitié à l'égard de Dieu, ça c'est très différent. D'inimitié à l'égard de l'attitude religieuse. Vous voyez, la laïcité comprise d'une manière active et dans cette attitude d'opposition vis-à-vis de l'attitude religieuse, celle-là détruit le sens humain. Mais pas l'attitude de celui qui cherche et qui n'a pas trouvé. Alors pourquoi n'est-il pas juste dire si Dieu n'existe pas, tout est permis? Mais non, c'est faux de dire ça. Si Dieu n'existe pas, il y a l'homme. Est-ce que si Dieu n'existe pas, j'ai le droit de tuer mon voisin? Mais non, votre voisin existe. Et vous êtes responsable de lui d'une certaine manière. Donc tout n'est pas permis. Vous devez respecter votre voisin, vous voyez. Vous arriveriez à dire des choses, mais ahurissantes au fond, pratiquement. Ceci légitimerait constamment une espèce d'attitude qui consisterait à dire si je n'ai pas le sens de Dieu, donc je peux faire tout ce que je veux. Non, la justice humaine n'implique pas immédiatement une référence à Dieu. Il faudrait que toutes les lois aient une référence à Dieu. Et toutes les lois ne doivent pas avoir une référence à Dieu. Elles doivent avoir une référence vis-à-vis de l'homme. Les lois. L'État ne doit pas régir le point de vue religieux. Dans cette condition-là, il n'y aurait d'État légitime que s'il était religieux. Que l'État respecte l'attitude religieuse, on est tous d'accord. Qu'il ne s'y oppose pas, on est tout à fait d'accord. Et il n'a pas à le régenter. Pourriez-vous préciser pourquoi l'adoration, loin d'être un obstacle à l'amour d'amitié, purifie et unifie les amis? Parce que l'adoration me met dans une vérité plus radicale que dans l'amour d'amitié. Je suis plus radicalement purifié et dans la vérité quand je suis dans cette attitude d'adoration. Puisque je reconnais mon état de dépendance à l'égard de Dieu. Et cet état de dépendance à l'égard de Dieu me remet dans une vérité pratique fondamentale. Cette vérité pratique fondamentale rectifie tout et fait que l'ami ne peut plus être considéré comme un absolu. Il est un absolu, mais ne peut pas être considéré comme le seul absolu. Donc comme l'absolu nous sans absolu. Spirituelle. Et donc je suis bien plus respectueux de la si ensemble on trouve que c'est bien, c'est bien. On se fait sa petite morale amicale. Ce qui arrive très facilement, on se fait sa petite morale amicale. Je te fais pas de mal. Tu me fais pas de mal, donc tout est bien. Ah, attention. En éthique religieuse, je dépends de Dieu radicalement. Je ne dépends pas radicalement de mon ami. Et donc la dépendance à l'égard de l'ami est relativisée par rapport à la dépendance à l'égard de Dieu. Et si elle est relativisée dans le sens plus profond, j'ai un sens beaucoup plus aigu de ce que représente ce respect à l'égard de la personne humaine. L'adoration me donne un sens d'un respect beaucoup plus profond de la personne humaine, puisque l'âme est créée directement par Dieu et que chaque individu est directement rattaché à Dieu. Et donc, avant d'être mon ami, il est le chef-d'œuvre de Dieu. Il est de Dieu et pour Dieu, avant d'être mon ami. Il y a là quelque chose qui est quand même quelque chose de très grand, et ça là relève directement de l'attitude religieuse. Mais l'amour, l'adoration n'assume pas l'amour d'amitié, il respecte ce lien particulier. L'éthique chrétienne, c'est-à-dire la charité, assume l'amour d'amitié, tandis que l'adoration ne l'assume pas. C'est toute la différence. À ce point-là, c'est très vrai, c'est très différent. Parce que l'éthique chrétienne donne une nouvelle finalité à l'amour d'amitié, ou subordonne l'amour d'amitié à l'amour divin, à l'égard de la même personne, tandis que l'adoration ne le fait pas. L'adoration purifie et radicalement et me donne un respect beaucoup plus grand vis-à-vis de l'ami. Autre question à propos de l'imaginaire qui fait faire des confusions et entraîne vers de fausses alliances qui aboutissent à des états limites. Peut-on dire qu'il y a une confusion plus spécifiquement masculine qui serait la confusion adoration, efficacité, l'argent. Les voleurs, les vendeurs dans le temple. Et une confusion plus spécifiquement féminine qui serait la confusion adoration, affectivité, samaritaine, la mère des fils de Zébédée. Là, je suis du reste en éthique chrétienne. Hein, je voudrais remarquer. Alors, en éthique chrétienne, il est bien évident que la distinction de l'homme et de la femme sont beaucoup plus marquées qu'en éthique religieuse. C'est curieux, mais c'est comme ça. Ça se comprend du reste. Puisque la grâce reprend tout selon un ordre divin d'amour. Et c'est à partir de l'amour qu'on peut le mieux voir la distinction et la complémentarité de l'homme et de la femme. C'est pas par rapport à l'intelligence. Elle est querelle indéfinie. Savoir si l'homme est plus intelligent que la femme, vous savez, ça vous pourrez discuter 107 ans, il n'y a pas de réponse. Tandis que savoir s'il y a une complémentarité du côté de l'amour, là, il y a une réponse. De sorte que c'est en éthique chrétienne qu'on voit surtout la différence entre l'homme et la femme. Ça c'est sûr, beaucoup plus qu'en éthique religieuse. Je ne crois pas qu'il y a spécifiquement une adoration distincte de l'homme et de la femme. Je ne crois pas. Parce que tous les deux sont des créatures de Dieu. Et que la femme a une âme comme l'homme a une âme. Et que l'âme de la femme est créée comme l'âme de l'homme est créée. Donc il n'y a pas c'est de l'ordre de l'exercice. Si c'est de l'ordre de l'exercice, c'est de l'ordre individuel. Donc, au plan philosophique, je ne peux pas baser une philosophie là-dessus. Je peux montrer simplement que dans l'ordre d'exercice, il y a sûrement des tendances. Et au plan théologique, j'essaierai de comprendre que ce sont les conséquences du péché originel. La conséquence du péché originel, pour l'homme, c'est le travail. C'est pour ça que l'homme est facilement plus paresseux que la femme. C'est un fait. Dans les familles, ordinairement, les filles travaillent mieux. Et les garçons, ouais, voilà, il faut faire attention. Si le sport, grande occasion de contourner, et il n'y a pas que le sport, mais il y a tout ce qu'on peut. Ordinairement, c'est comme ça. Et la mère dira, regarde ta petite soeur comme elle travaille. C'est très rare qu'on dise ça. Regarde ton petit frère comme il travaille bien. Non, non. Très peu modèle du travail. Parce que la conséquence du péché originel se touche du côté du travail. Et la conséquence du péché originel se trouve du côté affectif. Et la femme, beaucoup plus facilement, sera blessée du côté affectif, d'un manque. L'homme, s'il est un peu intellectuel, une bonne bibliothèque, ça va, un bon atelier de menuiserie, s'il est menuisier, un bon atelier, fait qu'il arrive à s'occuper. Il s'occupe, alors il ne s'ennuie pas. Et que la femme, même s'il a une bonne cuisine, c'est pas suffisant. Mais donc, du côté affectif, il y aura beaucoup plus facilement le manque. Alors, c'est très juste, confusion de l'adoration avec l'efficacité, confusion du travail, c'est très juste, ça, je suis tout à fait d'accord, mais c'est beaucoup plus général que l'adoration. Ça se retrouvera dans le climat absolu. Et pour le théologien, c'est-à-dire pour la théologie, pour l'éthique chrétienne, où je suis attentif aux conséquences du péché originel, je dirais que c'est, oui, c'est normal que je retrouve ça, mais dans à tous les niveaux. Le péché dominant de l'homme, constamment, ce sera toujours l'efficacité. L'efficacité et la domination. L'homme aime de dominer. C'est très très rare les hommes qui se sont purifiés du côté de la domination. On leur donne une toute petite charge. Ça en fait, oh là là, comme si le monde entier était dépendant de cette charge. Et ceci pour dominer. Et si on ne domine pas sur les personnes, sur les hommes, on dominera sur la femme. Et si on ne domine pas sur la femme, on cherchera toujours des enfants sur lesquels on peut dominer. C'est extraordinaire de voir ça. L'instinct de domination, c'est le pouvoir. Et du côté de la femme, les confusions se prendront du côté affectif. On essaiera de se rattraper de mille façons du côté affectif. Vous voyez, c'est curieux, hein, vous retrouvez, vous voyez, dans l'ordre de l'amitié, l'amitié honnête, l'amitié de plaisir, l'amitié utilitaire. Et ça se retrouve, ça c'est intéressant de voir que le philosophe saisit ça tout de suite. Les deux déformations de l'amitié. Les deux déformations. La déformation amitié de jouissance. L'amitié utilitaire. Efficacité avec l'individu. Il faut beaucoup réfléchir là-dessus. Mais il faut faire attention de ne pas en faire une philosophie. C'est d'ordre psychologique. C'est d'ordre du comportement. Mais c'est très important de signaler ça, parce qu'on vit au niveau du comportement. Il ne faut surtout pas confondre psychologie et philosophie. Il ne faut pas que le philosophe méprise la psychologie. Et il ne faut pas que le psychologue renvoie promener la philosophie. qu'est-ce qui est premier pour nous? C'est la philosophie. Parce que la psychologie ne vous permettra pas de pénétrer en philosophie, tandis que la philosophie doit rester ouverte à la psychologie. C'est la différence. C'est pour ça que nous faisons surtout de la philo. Et qu'on néglige pas la psychologie. Mais la psychologie, je dirais, c'est une fois qu'on est vraiment un peu entré dans la philosophie, c'est facile. C'est les applications. C'est le comportement. C'est le conditionnement. Ah, je continue. Sur l'adoration. Au plan philosophie religieuse, l'adoration, nous, la philosophie religieuse. Si vous comprenez qu'il y a là une expérience d'un type unique, vous comprenez que l'éthique religieuse existe. Donc, nous pouvons tous avoir l'expérience de l'adoration. Nous devons tous l'avoir. Et cette expérience de l'éthique religieuse montre tout de suite que l'analyse de cette éthique, de cette adoration, ne peut pas se ramener à l'éthique fondamentalement humaine. L'adoration est autre chose que l'amitié. Tout à fait autre chose. C'est bien un amour radical, un amour premier à l'égard de Dieu. Mais c'est un amour où, justement, je reconnais ma totale dépendance à l'égard de Dieu. Tandis que dans l'amour d'amitié, vous ne faites pas l'expérience de la totale dépendance à l'égard de l'ami. Vous faites l'expérience, au contraire, que l'ami ne fait qu'un avec vous. C'est l'expérience de l'unité dans la dualité. L'adoration fait aussi l'expérience de l'unité dans la dualité, mais d'une manière tout autre. Parce que cette unité, elle se fait dans la mesure où, justement, je disparais volontairement, avec amour, en face de mon Créateur. Je reconnais que c'est lui qui doit passer devant et que c'est lui qui est tout dans ma vie. Dans l'adoration, je m'efface complètement en face de Dieu. Dans l'amour d'amitié, je suis un avec mon ami. Je ne disparais pas en face de mon ami. Ce serait plus l'amour d'amitié. Et on pourrait voir, et ce serait intéressant, faites ça vous-même, comme un titre de réflexion, et c'est bon. On noue l'éthique humaine, fondamentalement humaine, autour de l'expérience de l'amour d'amitié. On noue l'éthique religieuse autour de l'adoration. Cette adoration est un acte volontaire, un acte libre, un acte d'amour, éclairé, illuminé par l'intelligence. Où je préfère l'accomplissement de la volonté de Dieu à ma propre volonté. Tant que je ne fais pas ça, je n'adore pas. Je suis superficiel dans ma vie religieuse. Et donc, la vie religieuse, pour moi, reste uniquement quelque chose d'assez extérieur. Ce sont des pratiques, des rites, des superstitions. Il n'y a pas une attitude vraiment religieuse. L'attitude vraiment religieuse réclame le don du cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est dit dans l'Écriture, ça. Et ça, c'est vraiment l'éthique religieuse. C'est Dieu qui, comme Créateur, réclame notre cœur. Cet amour. On veut aimer Dieu par-dessus tout en éthique religieuse. Parce qu'on considère que tant que je n'aime pas Dieu par-dessus tout, je ne suis pas dans la vérité. La vérité consiste à me regarder comme participant radicalement de Dieu, de l'être de Dieu. Mon essai, mon exister, mon être en acte dépend de Dieu. Je suis un être qui n'existe que dans la dépendance à l'égard de Dieu. Et passe toujours devant. Et donc, je choisis l'accomplissement de la volonté du Créateur, du Père, avant le choix de ma propre volonté. L'adoration qui creuse en moi un abîme de pauvreté. Puisque je suis totalement dépendant de l'être premier, je suis donc un mendiant métaphysique, au sens très fort. Cette mendicité métaphysique de mon être, qui est totalement reçue, il ne vient pas de moi. Il est entièrement reçu de Dieu. Et il est de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est fait pour Dieu, pour retourner vers Dieu. Cette mendicité métaphysique creuse en moi un abîme de pauvreté, de petitesse. Je suis un être jamais premier, toujours relatif à un autre, et donc ne peut se perfectionner que à travers une multiplicité d'actes. Je ne peux pas être parfait dans la simplicité. Nous rejoignons ce que tu disions l'autre jour. Et là, nous avons l'expérience de cela dans l'adoration. Nous avons l'expérience, non pas de la simplicité de la perfection, nous avons l'expérience que nous ne pouvons pas, et nous l'expérimentons dans l'adoration, nous ne pouvons pas être parfaits dans la simplicité. Impossible. Parce qu'on est second. Et donc c'est à travers la multiplicité. La multiplicité qui se traduit dans le temps. J'ai besoin du temps pour être parfait. Et j'ai besoin d'une multiplicité d'activités pour être parfait. Ça, c'est l'adoration qui creuse en moi cet abîme. Et donc, j'ai un devoir d'ordonner cette multiplicité. Autrement, je serai anarchique. Quand je suis en présence de cette découverte, de cette multiplicité d'actes nécessaires pour atteindre la perfection, je peux très bien, à ce moment-là, dire, bon, alors, peu importe, puisque je suis un mendiant, on le laisse faire ce qu'il veut. Oui, attention, un mendiant métaphysique, c'est du côté personnel vis-à-vis de Dieu. C'est pas au niveau social, c'est pas au niveau politique. Non, pas du tout. C'est quelque chose de caché et de tout à fait intérieur. Je dois prendre conscience dans mon adoration que cette dépendance radicale à l'égard de Dieu qui me met mendiant du Créateur réclame de me soumettre à un ordre qui ne vient pas de moi, mais qui vient du Créateur. Je dois découvrir progressivement un ordre de sagesse à travers mes diverses activités. Et ça, ça s'impose impérativement. Je n'ai pas le droit de dire je suis gérant de ma vie. Quelque chose qui s'impose à moi, la détermination de ma nature humaine et ma finalité. Voyez comment l'adoration devient gardienne de la finalité humaine. Et ça, on comprend très bien pourquoi. Parce que tant qu'il n'y a pas l'adoration, la finalité, c'est un autre homme. Ben oui, l'autre homme, il n'est quand même pas un dieu pour moi. Mon ami, ami n'est jamais mon Dieu. Et le jour où mon ami devient mon Dieu, le pauvre Dieu, il a fait une chute radicale. Et très vite, je m'aperçois qu'il n'est pas mon Dieu. Et donc, l'ami me fait découvrir une finalité, mais ne me fait pas découvrir ma finalité. C'est l'adoration qui me fait découvrir ma finalité. Elle est gardienne d'une dimension toute nouvelle de ma vie humaine et découvrir la finalité de l'homme. Dieu seul peut finaliser l'homme. Et ça, l'adoration me le montre. J'allais presque dire expérimentalement. C'est pas tout à fait juste de dire expérimentalement, mais presque expérimentalement. Puisque en adorant, je découvre que Dieu m'aime. Et que découvrir cet amour de Dieu et cette attraction de Dieu sur moi me permet de me délivrer de moi-même, de sortir de moi-même des limites de moi en tant que partie, en tant qu'individu. Me libérer de cela pour m'unir à celui qui est ma source et qui est une source infinie en qui je n'ai plus de limite et en qui je peux découvrir qu'il y a en moi une capacité quasi infinie d'aimer et une recherche quasi infinie de vérité. Oui, c'est là où il faudrait répondre à Feuerbach. C'est par l'adoration que je peux répondre à Feuerbach, qui est le père de toutes les idéologies athées d'aujourd'hui. Et Feuerbach montre, si vous voulez, puisqu'il y a un quasi infini dans l'homme de connaissance, de capacité de connaissance et de capacité d'aimer. En réalité, c'est l'homme qui est Dieu. Et à cause de ses nostalgies, il projette son Dieu. Il faut, à partir de l'adoration, donner le vrai sens de ces nostalgies, qui ne sont pas des nostalgies, qui sont la réalité propre de l'homme, mais dans la lumière de Dieu. C'est pas l'homme qui est infini, puisque il est mendiant de son existence. S'il est mendiant de son existence, l'infini qu'il porte en lui, du côté de son esprit, cet infini ne peut être satisfait que dans ce lien profond avec Dieu. Et c'est cela qui sera pour lui comme l'appel à un dépassement de l'adoration vers la contemplation. Il y a comme un levier de commande dans l'adoration. C'est très curieux. L'adoration, une véritable adoration, ne peut jamais s'achever en elle. C'est un appel à rejoindre l'infini, à découvrir l'infini au point de vue de la vérité et à l'aimer. C'est pour ça que la véritable adoration mène à la contemplation et ne peut que mener à la contemplation. Une adoration qui ne mène pas à la contemplation se détériorise. Pourquoi ? Parce que l'adoration me met à la source de ce qu'il y a de plus grand et de plus profond en moi. Me fait découvrir celui qui est mon créateur et qui lui est infini. Et qui lui m'appelle. Et qui lui réclame. De mon intelligence, la recherche. c'est très bien, mais ça me dépasse complètement. Donc, moi, je vais faire une œuvre positive, purement humaine. Vous voyez que par là, on méprise ce qu'on a découvert dans l'adoration elle-même. Mon lien quasi infini avec l'infini. Et donc, je détruis moi-même ce qu'il y a de plus grand en moi, ma capacité de contempler. Je crois que c'est cela qui, au fond, est la chose la plus terrible. Puisque l'adoration, au lieu de m'ouvrir à l'infini, me referme sur mes propres limites et mon conditionnement. Sous prétexte d'humilité, sous prétexte que le divin ne m'appartient pas, le divin n'est pas pour moi. Et donc, je veux faire uniquement œuvre humaine de serviteur de Dieu. Or, je dois découvrir que le vrai service à l'égard de Dieu, c'est d'adorer et de reconnaître que l'infini de Dieu m'appelle, me sollicite, l'infini de Dieu comme esprit, dans sa vérité et son amour, et éveille en moi une capacité de m'ouvrir à lui. Et que c'est cela que Dieu aime le plus, me mettre le plus proche possible de ce qu'il est. De ce qui m'apparente à Dieu, me connaturalise à Dieu. Et supprimer cela, c'est mépriser, peut-être pas explicitement, mais quand même en acte, la grandeur qui existe en moi comme chef-d'œuvre de Dieu. La grandeur de mon esprit, de mon intelligence, de mon cœur. Et c'est me replier sur uniquement coopérer à l'œuvre créatrice de Dieu. Et non plus découvrir ce qui est à la source de cette œuvre créatrice. Il y a là une tentation qui au fond est une tentation d'orgueil. Puisque d'un côté, j'entre dans l'attitude de docilité, de remise totale entre les mains de Dieu, pour entrer dans ce qu'il y a de plus profond dans le mystère de Dieu. Tandis que de l'autre côté, donc je rejette cela pour être à moi-même mon propre maître, pour avoir l'autorité. J'ai l'autorité dans l'ordre de l'efficacité, dans l'ordre de la réalisation. Tandis qu'au contraire, dans la recherche de la vérité, dans la recherche de la contemplation, je suis toujours, toujours soumis à plus grand que moi, à Dieu. Dans l'ordre de la réalisation, je coopère avec le Créateur en faisant appel à mon indépendance, à mon autonomie, à ma capacité de transformer le monde et d'aider ceux qui sont proches de moi. Je deviens serviteur des hommes. Si je suis serviteur des hommes, à partir d'une contemplation à l'égard de Dieu, c'est magnifique. Mais si je suis serviteur des hommes parce que j'ai peur de cette contemplation,